On s'intéresse à cette personne de Myriam dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a de curieuses ressemblances avec la Marie du Nouveau Testament. D'abord, elle est, comme Marie, cause un petit peu indirecte du salut du peuple, puisque en effet, c'est bien elle qui, d'une certaine façon, va permettre à Moïse, le sauveur du peuple, de vivre. Et en sauvant Moïse, en donnant en quelque sorte la vie à Moïse, puisque c'est elle qui aura l'idée de cette histoire de la mettre dans une petite arche, en sauvant la vie à Moïse, Myriam va être la cause indirecte, en quelque sorte, du salut de l'ensemble du peuple. Et puis l'on voit aussi après que Myriam va être une prophétesse et qu'elle va rendre grâce à Dieu d'une façon très extraordinaire et qui, dans ce cantique de Myriam, et qui, d'une certaine manière, ce cantique est très proche aussi du célèbre Magnificat que l'on connaît bien dans le Nouveau Testament. Alors donc, je crois que c'est effectivement quelque chose d'essentiel, parce que leurs vies sont parallèles. Elles sont toutes les deux l'image d'une humanité dévouée au service de Dieu, à l'écoute de sa parole et à la transmission de cette même parole, ce qui est en fait le rôle du prophète. Mais voilà, le problème, c'est que la vie de Myriam n'est pas que cela. Et il n'y a pas dans la vie de Myriam que des perfections admirables. Et en particulier, vous avez entendu dans le livre des Nombres, chapitre 12, les versets 1 à 16, cet épisode un petit peu trouble de la jalousie de Myriam, où Myriam est jalouse du succès de Moïse, et en quelque sorte elle conteste l'autorité de Moïse. Et à ce moment-là, Myriam est jalouse aussi à l'égard de la femme de Moïse d'ailleurs. Et à ce moment-là, Myriam va être, frappée d'une lèpre qui, grâce à l'intercession de Moïse, ne va durer que 7 jours. Alors là, il y a des choses qui commencent à être très troublantes. D'abord parce que la jalousie de la femme, de la sœur de Moïse, la tradition rabbinique nous dit que Myriam, en fait, reproche à Moïse d'être mariée. Il lui reproche tout simplement de s'être mariée et donc de ne pas consacrer tout son temps au service du peuple. Et il y a là, dans le Midrash, tout un développement sur ce point que l'on pourrait considérer comme un développement très moderne sur la question, justement, du célibat et du mariage, voire même sur la question de la virginité. Donc là, c'est très curieux pour moi de voir que déjà dans la Myriam de l'Ancien Testament se trouve posée, d'une certaine manière, la question de la virginité et de la valeur éventuelle du célibat. Mais alors, quant à cette histoire de péché, quant à cette histoire de problème où Marie est donc exclue pendant 7 jours, est-ce qu'il y a un parallèle avec la Marie du Nouveau Testament ? Alors, a priori, on voudrait dire non, puisque la Marie du Nouveau Testament n'est pas montrée ayant la moindre jalousie à l'égard de qui que ce soit. Mais néanmoins, il y a quand même dans l'évangile de Luc un épisode extrêmement curieux qui est un exact parallèle avec cela. C'est que l'évangile de Luc nous dit qu'après la naissance de Jésus, au 8e jour, Marie va au temple pour offrir les sacrifices d'expiation pour le péché au temple en offrant deux petites colombes ou je ne sais plus quoi. Or, quand on regarde dans le Lévitique le sens de ce sacrifice qui est fait au 8e jour après la naissance de l'enfant, et donc 7 jours après, on se rend compte que le Lévitique dit bien que la mère de l'enfant doit apporter un sacrifice au temple au 8e jour après la naissance de l'enfant pour se faire pardonner de tous ses péchés. Alors tout à coup, on se dit, tiens, mais voilà qui est curieux. Et les théologiens, depuis le plus haut Moyen-Âge, se sont demandé pourquoi Marie avait ressenti le besoin d'offrir ce sacrifice pour le pardon des péchés, si elle en était absolument indemne. Et d'autre part, le parallèle avec l'histoire de Myriam est troublant, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une impureté, donc d'un péché qui dure 7 jours, avant qu'il ne soit enfin pardonné et purifié. Et du coup, cette question est assez curieuse, parce que quand on regarde l'histoire de la théologie mariale, on se rend compte que le thème d'une Marie perpétuellement exempte de tout péché est quelque chose qui n'a pas fait l'unanimité des théologiens, même catholiques. Et qu'en particulier, vous savez très bien que le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, sur lequel nous reviendrons, disant que Marie a été sans péché depuis sa conception jusqu'à sa mort, est un dogme extrêmement récent, puisqu'il n'a été promulgué qu'il y a une centaine d'années seulement. Et en particulier, le grand théologien Thomas d'Aquin, qui n'est pas un des moindres, Thomas d'Aquin, lui, affirmait, en s'appuyant principalement d'ailleurs sur ce texte de Luc avec ce sacrifice que je vous ai cité, Thomas d'Aquin affirmait que Marie avait été une femme tout à fait exceptionnelle, unique, digne de reconnaissance, d'admiration et de piété, mais qu'elle ne devait pas être considérée comme ayant été absolument sans péché. Et donc Thomas d'Aquin lui-même s'est opposé très fortement à une doctrine prétendant que Marie aurait toujours été exempte de tout péché. Alors, cela montre qu'il faut, je dirais, prendre les doctrines avec une certaine prudence. Et en particulier, j'avoue que je suis sur ce point et sur beaucoup d'autres d'ailleurs, je suis assez thomiste, parce que je crois que prétendre ou non que Marie ait été absolument exempte de péché toute sa vie, je dirais on peut le faire comme ci ou comme ça, mais il faut avoir conscience de toute la théologie sous-jacente que cela suppose, et que en fait ce n'est pas du tout anodin, et que l'on affirme une chose ou une autre, en fait cela suppose, je dirais, toute une certaine conception de la vie de l'homme et du rapport à Dieu. Je pourrais dire, dites-moi ce que vous pensez de Marie, et je vous dirai ce que vous pensez du rôle de la foi et de la spiritualité dans votre vie, et du rôle que Dieu peut jouer dans votre vie. Parce qu'en effet, on peut penser que l'idée que Marie ait pu rester toute sa vie absolument sans péché, on peut considérer que c'est fâcheux et dommageable pour la théologie. Parce qu'en effet, il est bien connu que dans la piété mariale en général, Marie est considérée comme l'image de l'humanité rachetée. Autrement dit, Marie a peut-être eu beaucoup de succès dans la piété populaire parce que c'est un personnage auquel on peut s'identifier, si vous voulez. Et l'on peut dire que Jésus a quelque chose d'un peu trop divin, d'un peu trop lointain, d'un peu trop extraordinaire, alors que Marie représente vraiment une humanité finalement comme vous et moi, simplement une humanité qui a dit oui au projet de Dieu, une humanité qui a été assumée par Dieu, choisie par Dieu, et qui donne naissance au Christ, qui donne naissance au salut, une humanité qui enfante la présence même de Dieu. Et ça, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Nous sommes tous appelés, comme Marie, à dire oui à celui qui nous annonce que nous pouvons, que notre vie peut donner naissance à une dimension éternelle, que notre vie peut donner naissance à la vérité, à la lumière et à l'éternité. Et donc ce fiat de Marie, évidemment, tous les théologiens ont toujours dit que c'est celui que nous sommes invités à dire nous-mêmes. Et donc Marie, elle est notre image, en quelque sorte. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il est très important le discours que l'on porte sur Marie, parce que de là découle tout ce que l'on va attendre pour nous-mêmes. Et donc, si Marie est bien cette image du croyant, alors je crois que si l'on pense que Marie, pour pouvoir enfanter le Christ, est due, depuis sa conception jusqu'à sa mort, être toujours parfaite, alors cela nous est impossible. Ou alors, il faudrait comprendre que pour nous, si nous voulons pouvoir donner naissance au Christ, alors il va falloir que nous essayions de nous perfectionner au maximum. Et donc notre vie va être une sorte d'effort permanent de purification, de perfectionnement, pour retirer le péché, pour retirer le mal, pour être de meilleur en meilleur, jusqu'à ce que finalement, arrivant à dépasser le péché, nous puissions arriver à une sorte de perfection. Et à ce moment-là, seule l'humanité qui parviendrait à exclure de sa vie toute forme de péché pourrait être rachetée. Il pourrait être sauvé par Dieu. Mais cela, je crois que c'est faux. Et en tout cas, ce n'est pas ma théologie. Parce que je crois que cette idée-là, c'est en fait ce qui a été véhiculé par trop de mouvements religieux chrétiens, catholiques comme protestants d'ailleurs, que je crois finalement ont fait beaucoup de dégâts dans l'humanité. Et dans le protestantisme, ce sont ces mouvements du puritanisme. Vous avez les puritains qui se disaient que pour être aimé par Dieu, pour être sauvé, il fallait être totalement pur, ne commettre aucune faute, aucun péché. Et ces puritains qui finalement essayaient de, en quelque sorte, tout en étant protestants, de ressembler à la Vierge Marie, jusqu'à avoir une sorte d'exécration de la sexualité et une exécration du mal en général, en se disant que le seul moyen de pouvoir être sauvé par Dieu, c'était d'arriver à une sorte de purification totale. Et je crois que c'est très mauvais, parce qu'on est dans une théologie des œuvres, on est dans une sorte de théologie pélagienne, comme l'on dit, où l'homme doit provoquer son propre salut par une purification progressive, alors que je crois que le sens de la vie ne consiste pas à l'envisager comme l'escalade d'une sorte de montagne de perfection et de pureté, mais notre vie, c'est la réponse à un courant d'amour. Et notre vie, c'est l'accueil de Dieu. Et notre vie, c'est le oui à Dieu, justement. Et moi, je suis pécheur, et je dis oui à Dieu. Et ce oui a d'autant plus de valeur, je crois, qu'il est dit par un individu normal, et par un être humain comme nous, et qui a aussi ses péchés, ses imperfections et ses faiblesses. D'une certaine manière, je dirais que la doctrine de l'Immaculée Conception, le fait que Marie ait été sans péché depuis sa conception, enlève pour moi toute valeur au oui de Marie. Parce que c'est très facile de dire oui à Dieu quand on n'a pas de péché. Parce que justement, le péché, c'est ça qui nous rend difficile le fait d'accepter Dieu et de lui dire oui. Si je n'avais aucun péché, le oui, je dirais, n'a aucune difficulté. Et par conséquent, je ne peux plus m'identifier à Marie si elle est parfaite. Alors, je pense effectivement que on peut penser que le message de l'Évangile, c'est précisément que, au contraire de cela, que le Christ peut venir dans toute humanité, même pécheresse. Et même bien avant d'atteindre la perfection, nous pouvons dire oui à Dieu et nous pouvons être sauvés par lui. Et même bien avant d'arriver à la pureté, pour peu que la pureté soit souhaitable, nous pouvons enfanter le Christ dans nos vies. Et même si nous ne sommes pas purs, ni parfaits, ni sans péché, Dieu peut s'unir avec nous, et Dieu peut faire l'amour avec nous, il peut coucher avec nous, et il peut enfanter en nous une dimension nouvelle qui est celle du Christ. Parce que Dieu ne répugne pas à s'approcher du pécheur, et Dieu ne s'approche pas seulement des gens purs, parfaits, sans tache et sans péché depuis leur conception. Nos erreurs, nos fautes, nos imperfections, nos jalousies, nos mesquineries ne sont pas des obstacles à la venue du Christ dans nos vies. Et c'est pourquoi je maintiendrai avec force, pour cette raison, je dirais purement théologique, la non-totale perfection de Marie en tant qu'elle est celle qui reçoit le Christ. Et d'ailleurs, si l'on regarde sans a priori ce qui est dit de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'en fait, elle reste un personnage extrêmement ambigu. Parce que à côté de cette dimension merveilleuse du Marie des premiers chapitres de Luc, qui accepte Dieu en elle, il y a d'autres passages, beaucoup moins glorieux, que l'on pense à Marie, qui oublie le petit Jésus à 12 ans à Jérusalem, et qui ne se rend compte qu'elle l'a laissé ou qu'elle l'a oublié à Jérusalem qu'une semaine après ou quelques jours après. C'est étonnant, surtout quand on sait que le fait d'oublier le Fils de Dieu, c'est ça l'expression même dans la Bible du péché et de l'oubli de Dieu et de l'éloignement de Dieu. Cette Marie qui ne comprend rien quand Jésus lui dit qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Et que l'on pense aussi à ce passage très, très dur où il nous est dit qu'elle veut voir Jésus. Et qu'on dit à Jésus, voilà, ta mère, tes frères et tes sœurs sont là, ils veulent te voir. Et Jésus les envoie balader en leur disant, mais qui sont mes frères, qui sont ma sœur, qui est ma mère? Ce sont là ceux qui font la volonté de mon Père, qui sont mes frères et mes sœurs. Et que Jésus refuse de recevoir sa mère. en considérant qu'ils ne font pas partie de ceux qui font la volonté de son Père. C'est un passage extrêmement dur. Alors me direz-vous, il y a cette Marie au pied de la croix, mais c'est très discutable. Enfin, il n'y a que Jean qui parle de cela, et les autres évangiles disent que ce que l'on sait par ailleurs historiquement, que les femmes n'étaient pas admises de toute façon à la crucifixion, donc il n'y avait aucune femme au pied de la croix. Les trois autres évangiles disent que les femmes regardaient de loin, et ils ne citent même pas Marie, la mère de Jésus. En tout cas, il y a tous ces moments où la mère de Jésus est cruellement absente. Et il faut bien reconnaître que dans l'Évangile, Marie, la mère de notre Seigneur, finalement, est très, 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 très peu présente dans la vie du Christ. Alors, il faut aller plus loin. Et quand on cherche un petit peu qui est cette Marie dans le Nouveau Testament, on est confronté à un invraisemblable imbroglio. Parce qu'il y a des quantités de Marie différentes dans le Nouveau Testament. Il y a Marie de Magdala, dont ont été chassés sept démons. Tiens, sept démons, comme les sept jours d'imperfection. Est-ce que ça ne serait pas la même? On ne sait pas. Il y a Marie de Béthanie, qui couvre les pieds de Jésus de parfum et qui les essuie avec ses cheveux. Il y a cette Marie qui était une prostituée. Il y a Marie, la sœur de Marthe, alors qui, elle, au contraire, est une image extraordinaire de piété, de fidélité, de contemplation, d'écoute du Christ. Et puis, il y a encore d'autres Maries que l'on n'arrive pas à déterminer. Il y a des Maries merveilleuses, comme celle du Magnificat. Il y a des Maries pécheresses, comme cette prostituée qui est au pied de Jésus. Et toutes ces Maries, finalement, sont très mélangées. Et les exégètes sont incapables, aujourd'hui, de démêler les chevaux de ces Maries et de savoir combien y avait-il de Maries, qui était qui, est-ce que Marie de Magdala est la même que la Marie de Béthanie, et est-ce que dans certaines, il ne s'agirait pas de la mère de Jésus lui-même, on ne sait pas. Et finalement, on pourrait dire que, je dirais, Marie, pour moi, me semble, dans le Nouveau Testament, comme une sorte de terme un peu générique, qui recouvre à la fois le meilleur comme le pire. Les sommets de la foi et les abîmes du péché. Et peut-être ne faut-il pas essayer de trop les séparer. Marie, c'est un tout dans le Nouveau Testament, avec cette ambiguïté qui est, pour moi, constitutive de notre personne et qui est, pour moi, symbolique de l'idée de Marie dans le Nouveau Testament, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, ce que recouvre la mère de notre Seigneur. Mais cette ambiguïté est présente, et elle se retrouve même d'ailleurs jusque dans un point très curieux, et qui est l'étymologie du mot, du nom de Marie. Puisque vous savez que l'étymologie a toujours une grande importance dans l'Ancien Testament. Et d'où vient, que veut dire le mot de Marie? Et là l'on trouve des dizaines d'interprétations possibles, mais qui sont une fois encore complètement contradictoires. Certains disent que Marie en hébreu vient de Moras, ce qui veut dire l'espérance. On se dit, ah, voilà qui est formidable. Mais ça pourrait venir aussi de mort, qui veut dire en hébreu l'amertume. Ou alors on peut dire que ça vient de mora, qui veut dire être belle. Mais à moins que ça vienne de mora, avec un H au bout, qui au lieu de dire comme mora, gracieuse, rayonnante, importante, cela veut dire être rebelle et révoltée. Alors qui est cette Marie? Est-ce que c'est la gracieuse, la belle? Ou est-ce que c'est la révoltée, la rebelle? Est-ce que c'est la beauté, la fidélité? Ou est-ce qu'elle est l'amertume? Et finalement, on ne sait pas. Et pour illustrer encore cette confusion, il y a encore une autre chose. C'est que Marie de Magdala, cette Marie Madeleine, parce que Marie Madeleine veut dire Marie la Magdaléenne, donc la Marie qui vient de Magdala, qui est souvent associée à la pécheresse, à la prostituée qui couvre les pieds du Christ de parfum. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est bien à cette Marie pécheresse que le Christ apparaît en premier lors de la résurrection. La première personne à qui le Christ apparaît à la résurrection, c'est cette Marie de Magdala. Et voilà qui est bien dommage. On aurait aimé que Jésus apparaisse d'abord à sa mère. Mais non. Et curieusement, dans ce récit de résurrection, on nous dit, dans d'autres évangiles, que Jésus apparaît à Marie, sans préciser laquelle. Alors à quelle Marie Jésus apparaît en premier? Et ce n'est qu'à la fin que Jean dit « Cette Marie, c'est la Marie de Magdala ». Alors qui est-elle? Alors on peut penser que c'était la Marie qui habitait à Magdala, mais d'autres théologiens ont eu une autre idée très curieuse, c'est que la Marie, mère de Jésus, c'est celle qui a prononcé le Magnificat. « Mon âme glorifie l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom », etc. Et, or, comment, si Marie a prononcé ce Magnificat, elle ne l'a évidemment pas dit en grec, elle l'a dit en hébreu. Et comment se dit le Magnificat en hébreu? Ça se dit « Magdila nafshi et Adonai ». Donc le premier mot du Magnificat en hébreu, c'est « Magdala ». Et certains exégètes ont dit « C'est très facile ». Marie de Magdala, ce n'est pas du tout une femme qui habitait Magdala, mais c'est la Marie du Magnificat, la Marie du Magdila Nafshi et Adonai. C'est la Marie du Magnificat, donc c'est bien Marie, mère de Jésus. Et une fois de plus, vous voyez que on ne sait pas de qui il s'agit. Et tout cela pour dire que je crois qu'on peut considérer toutes ces Maries du Nouveau Testament comme un terme générique. C'est comme ça, moi, que je le comprends. Comme cette espèce de patte humaine qui comprend la mère du Seigneur, mais aussi la pécheresse. Et cet ensemble logique qui n'est pas une perfection pure, mais c'est simplement l'humanité telle que nous sommes, nous, avec nos élans magnifiques, mais aussi avec nos mesquineries, avec nos fautes. Et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que la perfection totale n'est pas une nécessité. Notre imperfection n'est pas un obstacle. Mais cependant, le Christ n'apparaît pas n'importe où quand même. Parce que dans toutes ces Maries, il y a un péché, je suis d'accord, enfin je le crois, même s'il est très faible pour la mère de Jésus, supposé, mettons. Mais ce qui est de particulier, c'est que dans tous les cas, ce que toutes ces Maries ont de commun, c'est que toujours c'est un péché assumé et reconnu pour lequel il est demandé pardon et pour lequel un effort est fait pour le corriger. Soit dans l'Ancien Testament, l'intercession de Moïse, soit les 7 jours que Myriam passe à l'écart, soit les 2 tourterelles offertes 7 jours plus tard par la mère de Jésus, soit les 7 démons sortis par le Christ, soit le parfum et la demande de repentance de la pécheresse qui pleure tous ses péchés. Dans tous les cas, je crois que la condition pour la venue du Christ, ce n'est pas la pure perfection, mais c'est l'humilité. Et ça, la tradition chrétienne a toujours souligné cette humilité de Marie. Et je crois que ça, c'est très important. Cette humilité à l'égard de sa situation propre et à l'égard de sa propre imperfection. Et c'est ça, pour moi, le sens, un des sens, en tout cas, du Magnificat. C'est ce verset « Voici, dit Marie, il a baissé les yeux sur son humble servante. » C'est cela, je crois, qui a permis à Marie d'être la mère de notre Seigneur, plus qu'une éventuelle pureté, c'est sa réceptivité, c'est son humilité, c'est son accueil du plan de Dieu dans son cœur, et c'est de tout cela auquel je suis le plus sensible. Alors oui, il est vrai que le Christ pour nous, c'est un idéal un peu lointain, qui pourrait être semblable au Christ. Mais s'il est présomptueux de vouloir ressembler au Christ, nous pouvons essayer de ressembler à Marie, ou plutôt au Marie en général. C'est-à-dire, avec nos défauts, nos qualités, savoir comme elle que nous vivons essentiellement sous la grâce. De savoir comme Marie, de dire comme Marie qui savait que le salut ne se gagne pas, mais qu'il se reçoit dans l'humilité. Et de savoir que l'on ne doit pas tant essayer de ressembler au Christ, c'est-à-dire à la perfection, que de l'accueillir dans son cœur. J'accueille dans mon cœur quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est cela qui me transforme et qui me donne la vie. Et je pense vraiment que là est l'essence même du christianisme. Savoir que nous ne pouvons nous arracher à notre condition pour devenir, nous ne pouvons pas nous arracher à notre condition pour essayer de devenir de plus en plus parfait ou pour ressembler au Christ, mais que nous devons apprendre à nous ouvrir, à recevoir le Christ comme une réalité jusqu'au fond de notre cœur, à laquelle nous devons donner le jour dans notre vie et à laquelle nous devons donner naissance, à laquelle nous devons laisser de la place. Et voilà ce que nous enseigne Marie. Partout dans l'Évangile, là où sont les Maries, l'une ou l'autre, partout, là se trouve la clé de voûte du salut. Parce que c'est Marie qui donne naissance à Jésus, c'est Marie, c'est une Marie qui voit apparaître le Christ ressuscité, c'est encore à une Marie qui pleure aux pieds de Jésus que Jésus dit « Je vous le dis, cette femme, on en parlera dans toutes les générations et jusqu'à la fin du monde. » Seule personne dont Jésus ait dit cela. C'est important, c'est extraordinaire. À chaque fois, c'est bien l'une de ces Maries à côté de laquelle, qui est le canal, je dirais, la clé de voûte du salut. C'est en elle que nous pouvons comprendre qui nous sommes. C'est en elle que nous pouvons comprendre comment nous pouvons être en position de recevoir le Christ dans nos vies. Et c'est bien dans toutes ces Maries, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, que nous découvrons la valeur extraordinaire de l'humilité, de la fidélité, de la joie, et tout cela pour le service du monde. Amen.